Vous êtes, vous, dit Jésus à ses apôtres, vous êtes ceux qui êtes demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme le Père en a disposé pour moi. En lisant le petit journal de Sainte Faustine, ces paroles de Jésus prononcées juste avant sa passion me sont revenues à l'esprit. Vous êtes ceux qui êtes demeurés constamment avec moi. En voyant la vie de sœur Faustine, comment ne pas ressentir l'appel à suivre Jésus de plus près, à demeurer proche de son cœur. À un moment où tant de personnes sont tentées de l'abandonner, sont tentées d'apostasier. Oui, il y a la possibilité de vivre sa vie comme une véritable amitié avec le Christ, dans une vraie communion de pensée et de sentiments, pour reprendre une expression chère à Benoît XVI. Une communion intime à la vie du Christ, qui est en même temps participation intime à son œuvre de rédemption. Rappelez-vous les paroles de saint Paul. Je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort afin de parvenir à ressusciter d'entre les morts. Rappelez-vous encore ce qu'a dit saint Paul aux Galates. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je sais qu'à certains moments, nous pouvons nous sentir très loin de vivre une telle communion avec Jésus. Peut-être même, à certains moments, pouvons-nous douter de l'avoir vraiment rencontré. Peut-être que nous nous sentons encore enfermés dans la prison de notre propre moi, comme a dit Benoît XVI. Mais en réalité, celui qui a l'initiative de cette communion, celui qui nous appelle, chacun comme il a appelé sainte Faustine, celui qui ne cessera jamais de nous poursuivre, tant son amour et sa tendresse pour nous est véritable, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est lui qui est là, fidèle, pour frapper à la porte de notre cœur. Jusqu'à l'heure de notre mort, il sera là pour nous appeler à lui, pour que nous puissions nous laisser rejoindre et toucher par lui. Aussi, aujourd'hui, nous renouvelons dans nos cœurs l'espérance que nous ne sommes pas condamnés à une vie d'inquiétude et d'agitation. Nous ne sommes pas condamnés à vivre devant un Dieu lointain et abstrait. Mais Jésus lui-même nous appelle et veut à tout prix nous introduire dans son amitié, dans son intimité, dans une profonde complicité avec lui. Je pensais au moment où je tenais Jésus hostie dans mes mains et que je me faisais instrument de sa présence au milieu de vous en voyant vos visages, je me disais que tout ce qui restera de nos vies pour l'éternité, ce sera la profondeur et la vérité de cette relation d'amour avec le Christ. Et comment pouvons-nous nous laisser conduire par Jésus sur ce chemin d'une union intime avec son cœur? Ici, nous nous laissons enseigner par sainte Faustine. Jésus lui a montré qu'elle avait besoin de le regarder. Il lui a donné une image qui est là et que nous ne nous lasserons pas de regarder. Cette image, nous savons, elle est là devant nos yeux de chair pour qu'elle puisse s'imprimer dans notre cœur et pour que nous puissions garder Jésus toujours présent à notre esprit et à notre cœur dans le mystère de sa passion. Laissons Jésus nous dire à chacun, pense à moi, regarde-moi, je veux être présent à ton esprit et à ton cœur en toutes circonstances. Pense simplement à moi, prononce mon nom, mon doux nom de Jésus. Redis-moi, Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai confiance en toi. Laissons Jésus aussi nous donner sa mère, la Vierge Marie, pour que nous puissions le contempler avec ses yeux purs, pour que nous puissions l'aimer avec son cœur immaculé. Ô bienheureuse Vierge, ma divine mère, donnez-moi vos yeux si purs pour contempler Jésus. Donnez-moi votre cœur pour l'aimer. Gravez profondément en mon âme l'image si douloureuse et pourtant si rassurante de sa passion et de sa glorieuse résurrection, afin qu'ayant toujours Jésus présent à mon esprit et à mon cœur, je vive jusqu'à ma mort d'une vie toute sainte, toute pure, toute humble, toute cachée en Dieu, avec Jésus et vous, ma bonne mère. Cette prière de Marthe Robin, nous pouvons la faire nôtre. Jean-Paul II nous a laissé avant de nous quitter. Il nous a laissé une invitation renouvelée à découvrir toute la richesse du rosaire pour laisser Marie nous introduire dans l'intimité de son Fils. Jésus nous demande donc de commencer notre vie dans un regard. Ce regard tourné vers son cœur. À partir de ce regard tourné vers le côté ouvert du Christ, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. C'est Benoît XVI. Oui, Seigneur Jésus, apprends-nous à tourner sans cesse notre regard vers ton côté ouvert, pour que nous puissions apprendre le chemin de l'amour véritable. Et quel est cet amour véritable qui nous sauve? Qu'est-ce que Jésus a vécu sur la croix? nous avons besoin d'approfondir notre intelligence, notre compréhension du mystère de la Passion, pour qu'il se grave plus intimement en nous. Jean-Paul II est revenu à de multiples reprises dans sa méditation sur ce mystère de l'amour avec lequel Jésus nous a sauvés sur la croix. Je le cite ici dans sa lettre sur la souffrance. Dans sa souffrance, les péchés sont effacés. Précisément parce que lui seul, comme Fils unique, a pu les prendre sur lui, les assumer avec un amour envers le Père qui surpasse le mal du péché et qui l'anéantit. Quel est cet amour envers le Père? Quelle forme a pris l'amour envers le Père sur la croix, si ce n'est celle de l'obéissance, dans un abandon total entre les mains du Père? Rappelez-vous la dernière parole de Jésus sur la croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », qui exprime cet amour le plus grand. Cet amour qui consiste à donner sa vie, littéralement à déposer son âme pour ceux qu'on aime. Jésus a déposé son âme entre les mains du Père pour nous. La victoire de la croix, c'est la victoire de l'abandon. Écoutez encore Jean-Paul II. Citant le cri de Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour, pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, abandonné par son Père, il s'abandonne entre les mains de son Père. Sur la croix, Jésus a éprouvé, à notre place, pour nous, tout le mal du péché en tant qu'il nous sépare de Dieu. Sa communion avec le Père a été comme suspendue, pour qu'il puisse descendre dans l'abîme de nos enfers intérieurs. Et là, dans cet abîme, Jésus, pour réparer nos désobéissances, pour réparer nos doutes, pour réparer notre orgueil, pour réparer notre volonté d'indépendance, pour ramener tous les fils prodigues de l'histoire dans la maison du Père, Jésus, alors même qu'il était dans son humanité comme abandonné par son Père, est allé jusqu'au bout de la confiance, de l'obéissance, de la remise de lui-même, de l'abandon. Et c'est là qu'il a, une fois pour toutes, vaincu le péché à sa racine. Et nous mettons toute notre confiance en cet amour rédempteur. Nous sommes ici pour célébrer cet amour rédempteur et pour renouveler notre acte de foi en sa puissance de transformation. Ici, je cite la méditation de Benoît XVI à Cologne, où il a médité sur l'offrande que Jésus a faite de lui-même pendant la Sainte Cène. le moment où Jésus a anticipé le don de lui-même. Ceci est mon corps livré pour vous. Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur cœur un changement, une transformation du monde. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même, la résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Cette fission nucléaire, c'est l'acte d'abandon que Jésus a fait au plus intime de son cœur à son Père sur la croix. Dans ce lieu secret et caché qu'est le cœur humain, a commencé, comme dit Benoît XVI, une chaîne de transformation à partir de cette explosion intime de l'amour. Oui, seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est pourquoi nous parlons de rédemption. Ce qui du plus profond était nécessaire se réalise. Et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Avant d'essayer de comprendre comment nous pouvons entrer dans ce dynamisme, je voudrais rappeler que Jean-Paul II n'a cessé de dire sa foi en cette chaîne de transformation. Il n'a cessé de dire sa foi dans le fait que cet amour qui est victorieux du péché dans ce qu'il a de plus intime, c'est-à-dire comme révolte contre Dieu, il n'a cessé de dire que cet amour avait le pouvoir de tout transformer. Écoutez les dernières pages, la dernière page de son dernier livre, Mémoire et identité. Il n'y a pas de mal dont Dieu ne puisse tirer un bien plus grand. Il n'y a pas de souffrance qui ne sache transformer en chemin qui conduit à lui. Telle est notre espérance. Telle est notre foi et telle est aussi notre prière. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Oui, nous pouvons prier ainsi dans la confiance que cette douloureuse passion est pour toujours définitivement victorieux de tout mal. Mais Jésus attend notre foi. Mais Jésus a besoin de cœurs qui accueillent et qui s'ouvrent entièrement à son amour sauveur, qui le laisse passer dans le monde. Nous avons adoré Jésus hostie. Nous l'avons adoré dans son acte d'abandon, dans son offrande au Père. Nous l'avons adoré pour qu'il puisse rayonner sur le monde. Nous l'avons adoré, nous avons renouvelé notre confiance en lui. Mais cette foi qui offre au Père le sacrifice de Jésus, elle doit animer toutes nos prières et toute notre vie. Vous avez entendu à la messe la deuxième lecture. Ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Ici, nous avons bien besoin de comprendre notre responsabilité devant Dieu et devant le monde. Un dimanche, dit la petite Thérèse, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Voilà notre responsabilité, recueillir par la foi cet amour sauveur, ce sang qui coule du côté de Jésus, pour pouvoir le répandre sur les âmes. Sois miséricordieux par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Nous nous laissons laver par ce sang. Nous nous laissons laver par ce sang dans la prière, dans l'adoration, dans le sacrement de la réconciliation. Mais en même temps que nous nous laissons laver les premiers, nous qui sommes pauvres pécheurs, nous rentrons dans le mouvement de l'intercession. Unis à la prière de Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous recueillons l'eau et le sang pour les répandre sur les âmes, en devenant des intercesseurs. Oui, en lisant le journal de Sainte Faustine, on ressent la force d'une vie animée par une prière, à la fois d'adoration et d'intercession. En même temps que nous offrons le sacrifice qui nous sauve, nous apprenons, ou plutôt nous ressentons grandir en nous un désir d'entrer nous-mêmes dans cette offrande, un désir de devenir nous-mêmes hostie vivante. Jésus nous appelle non seulement à croire en la puissance de son amour sauveur, mais à entrer dans cet amour sauveur. Et de quelle manière pouvons-nous faire de notre vie une participation intime à l'œuvre de la rédemption? Comment non seulement nous laisser sauver, mais devenir sauveur avec Jésus? En un moment où l'Église, plus que jamais, ressent le besoin de revenir au cœur du mystère qui l'a fait vivre et de puiser à la source du salut pour l'humanité tout entière. Frères et sœurs, Jésus ne nous demande pas quelque chose d'impossible. C'est lui qui nous appelle à le suivre pour que nous puissions demeurer constamment avec lui dans ses épreuves, l'aider à sauver les âmes, porter la croix avec lui, derrière lui. Et pour cela, nous n'avons pas à chercher quelque chose qui soit en dehors de notre vie. C'est notre vie elle-même quotidienne, telle qu'elle est, qui est la matière de cet amour nouveau, qui prend la forme de l'abandon. Aujourd'hui, nous nous redisons cette vérité simple. Où que je sois, quoi que je fasse, quelles que soient mes limites humaines, quelle que soit mon activité professionnelle, quel que soit l'état de mon cœur, je peux toujours regarder vers Jésus. Je peux toujours penser à lui. Et je peux toujours m'unir à son abandon. Je peux toujours, au fond de mon cœur, prononcer mon fiat, mon consentement. Consentement à quoi ? Consentement à ce qui est. Consentement au moment présent. Consentement à ce que j'ai à faire et à supporter. La matière de cet amour, ce n'est pas simplement la souffrance. La souffrance est l'occasion d'aller plus loin dans l'abandon. Mais c'est toute la vie qui peut être matière d'abandon. Dans son journal sur Faustine, un moment, confesse avoir choisi d'elle-même un moyen de mortification. Elle a utilisé des petites chaînes, comme on le faisait à l'époque. Or, elle était malade. Et son confesseur lui a reproché d'avoir choisi d'elle-même un moyen de mortification. Il l'a remise dans l'obéissance et lui a demandé simplement de méditer la passion de Jésus. Et la première réaction de sœur Faustine, ça a été de dire « Mais c'est une joie que de méditer la passion de Jésus. » Et ensuite, comme elle avait voulu faire ce sacrifice volontaire pour une âme précise, Jésus lui est apparu une nouvelle fois et lui a dit « Écoute, ta prière est exaucée. » Mais non pas à cause de la mortification volontaire que tu as faite et qui n'était pas vraiment dans l'obéissance, mais parce que tu as été soumise à ton confesseur. Nous pouvons tout faire, soit à contre-cœur en murmurant, soit en acceptant simplement la volonté de Dieu qui se cache derrière les choses, les petites comme les grandes. Et quelle est notre espérance ? C'est que face à ces choses que nous avons à faire ou à supporter dans un monde qui fait peser sur nos épaules une croix de plus en plus lourde, quelle est notre espérance ? Notre espérance, c'est la fission nucléaire, frères et sœurs. C'est que notre acte d'abandon au plus intime de nous-mêmes, prononcé peut-être d'une manière sèche, « Mon Dieu, j'accepte ta volonté, même si toute mon humanité résiste, même si je suis dans la colère, même si je sens beaucoup de révolte dans ce qui me reste de liberté profonde, je t'offre mon oui pour être uni à Jésus, ton Fils, dans son offrande. » Notre espérance, c'est cet acte qui est posé dans l'intime de notre être, dans le cachet du cœur, dégage une puissance, une chaîne de transformation qui fait qu'à partir de ce consentement, les situations de l'intérieur peuvent être transformées. C'est ainsi que se réalise la parole de saint Paul. Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. C'est ainsi qu'effectivement, tout mal peut être tourné en bien. Mais n'oublions pas cette arme absolue, plus puissante que l'arme nucléaire, la seule qui puisse réellement, de l'intérieur, transformer notre vie. N'oublions pas, quand nous honorons, quand nous vénérons, quand nous adorons le cœur de Jésus, que ce cœur nous invite à rentrer dans ce mystère, à laisser notre vie rentrer dans cette logique de la croix, qui est la vraie sagesse. Sainte Faustine a éprouvé, comme la petite Thérèse, le besoin de faire de grandes choses. Comme la petite Thérèse, à un moment, elle aurait aimé être prêtre, missionnaire, martyr. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que l'amour, quand il prend la forme de l'abandon et de l'offrande, suffit. Qu'il renferme toutes les vocations. Notre vie aura toujours un sens et toujours une fécondité et toujours une beauté. Elle pourra toujours être unie à celle de Jésus, rien que par ce consentement. Qui est mon frère, ma sœur, ma mère, celui qui fait la volonté du Père. Un grand amour peut transformer les petites choses en grandes, dit Sainte Faustine. Ce n'est que l'amour qui donne de la valeur à nos actions. Et nous comprenons que cet amour consiste pas d'abord à vouloir faire des choses pour les autres, mais à accepter tout ce que nous avons à vivre pour eux. Et spécialement, il prend la forme la plus haute quand nous acceptons de souffrir à cause d'une personne qui nous a blessés. Quand, au lieu de rester enfermé dans la colère, cette souffrance que nous a causée l'autre, nous l'unissons à celle de Jésus, que nous l'acceptons par amour pour Jésus, pour l'aider à sauver cette personne qui nous a blessés. Et à ce moment-là, au mal reçu, à la blessure reçue, répond un amour victorieux du mal. Parce que notre seule victoire sur nos ennemis, entre guillemets, c'est la victoire d'un amour qui les transforme, qui les convertit. Pardonner par amour pour l'autre, humainement, c'est impossible. Mais pardonner par amour pour Jésus, en acceptant la souffrance causée par le mal, et en la surmontant par notre abandon, par la remise de nous-mêmes, de notre vie entre les mains du Père avec Jésus, c'est possible, par amour pour lui, simplement par amour pour lui. Nous n'avons que cette vie pour l'aider à sauver les âmes. Nous n'avons que cette vie pour semer. Nous n'avons que cette vie pour lui prouver notre amour. Nous aurons l'éternité pour récolter dans la joie. Seigneur Jésus, fais grandir notre désir d'une union intime avec ton cœur pour une participation intime à ton œuvre de rédemption. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre que et la vraie réussite de notre vie, pour l'éternité. Seigneur Jésus, fais-nous aussi goûter la joie de t'être ainsi intimement unis. La joie qu'a connue Marie, qu'ont connue tous les saints. La joie qui nous est donnée dans cette offrande et ce don total de nous-mêmes qui font de nous des vrais frères et des vrais amis du Christ. Nous le demandons au Seigneur par l'intercession de Sainte Faustine. Nous le demandons aussi au Seigneur par l'intercession de Jean-Paul II, qui s'est laissé conduire jusqu'au bout sur ce chemin et qui a répandu dans le monde entier la bonne odeur de l'amour pur.